Docteur Amadou Ba, votre dernier ouvrage est une étude sur l'histoire militaire et coloniale du Canada. Quand est-ce que vous avez décidé de mener des recherches sur ces sujets qui sont autant sensibles que d'actualité?
Il s'intitule L'histoire oubliée de la contribution des esclaves et soldats noirs à l'édification du Canada, 1604-1945. 1604, donc, étant la date de l'arrivée de Massoud Akossa, qui accompagnait Samuel de Champlain au cours de son voyage au Canada, et 1945, la fin de la Deuxième Guerre mondiale, qui est une étape importante dans l'histoire du Canada et du monde. J'ai commencé à écrire ce livre qui est en réalité une volonté de faire une comparaison. Quand j'ai fini ma thèse, et puis en 2010 que je me suis installé au Canada, j'avais une soif de très bien connaître l'histoire du Canada. Hein. Je voulais voir véritablement c'était quoi l'histoire du Canada, l'Empire colonial britannique, le Canada qui est une domination britannique. Et j'ai voulu aussi voir ce qui s'est passé dans l'Empire colonial français à travers donc mes recherches sur la contribution, la participation des soldats des anciennes colonies françaises. Est-ce que ça a été le cas pour le Canada? Mais j'ai voulu voir, y avait-il des populations descendance africaine qui était dans les armées, etc. Donc, c'est comme ça, petit à petit, que ça a commencé. Et dès que j'ai commencé à lire, effectivement, je voyais qu'il y avait déjà une population noire au Canada et puis qu'elle était là, il y avait la question de l'esclavage et que dans les armées canadiennes, au moins depuis 1812, et probablement bien avant, puisque j'ai encore compté les recherches, qu'il y avait des Canadiens d'ascendance africaine. Il y avait donc des noirs dans les armées. Finalement, j'ai décidé d'en faire une pierre deux coups, donc cette question des Afro-Canadiens dans les armées, mais aussi l'esclavage. Donc, mon livre, dans la première partie, retrace l'histoire de l'immigration des Noirs au Canada depuis pratiquement le début du XVIIe siècle jusqu'à l'immigration économique des Trente Glorieuses. Et dans la deuxième partie, j'analyse la participation, la part des Noirs, donc des Afro-Canadiens, dans toutes les guerres du Canada depuis 1812, qui est un événement majeur dans l'histoire canadienne, parce que c'est pendant cette guerre napoléonienne qui s'est déclenchée en Europe où les États-Unis ont voulu saisir l'occasion pour annexer le Canada, donc jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. C'est aussi un livre où je montre que dans toutes les guerres canadiennes, en tout cas où britanniques, que la Grande-Bretagne a mené en Amérique du Nord-Britannique, il y avait des Noirs, hein, que ce soit des guerres à l'intérieur du Canada ou à l'extérieur du Canada, hein, parce que le Canada aussi va participer à toutes les guerres menées par la Grande-Bretagne, que ce soit la guerre en Crimée dans les années 1850, la révolte des Sipaïs en Inde dans les années 1850 aussi, ou bien même en Afrique du Sud, hein, quand l'Angleterre voulait annexer justement cette colonie-là et puis la reprendre sur les bords de 1899 à 1902. Vous voyez donc la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. Donc je retrace dans mon livre toutes ces guerres, de cette histoire militaire du Canada et la présence des Noirs, des Afro-Canadiens. Une histoire qui n'est pas du tout connue, en plus de parler de l'esclavage qui a existé au Canada, qu'on ne sait pas véritablement. Donc, en faisant ce livre, ça m'a permis de mieux connaître l'histoire du Canada, de mieux connaître les relations entre l'Afrique, entre l'Amérique du Nord, entre les Antilles, toutes ces connexions avec le Canada, l'histoire de la Nouvelle-France, l'histoire de l'Empire colonial britannique. Le Canada de l'Atlantique au Pacifique, les provinces canadiennes, comment le Canada s'est créé, la Confédération, les loyalistes, les Freedom Seekers, l'arrivée des réfugiés après l'abolition de l'esclavage dans l'Empire colonial britannique, alors que l'esclavage était pratiqué aux États-Unis, puis ce que les Noirs ont vécu également au Canada pendant le passé, les questions de racisme, de discrimination, etc., etc.
L'esclavage est l'un des sujets centraux de ces livres. Expliquez-nous comment la traite d'êtres humains s'est produite au Canada. Quels sont les impacts actuels de ces phénomènes prohibés? Et surtout, comment aborder la question de l'esclavage qui aujourd'hui devient de plus en plus difficile? L'Université d'Ottawa est au cœur d'une controverse à cause justement de cette problématique, car une chargée de cours a utilisé le mot en haine, jugé raciste.
L'esclavage au Canada a commencé au XVIIe siècle. On repère le premier esclave en Nouvelle-France en 1628. Son nom, Olivier le Jeune. Alors, la Nouvelle-France, il faut se rappeler que c'est un empire français, donc en Amérique du Nord, qui était très vaste, qui commence en 1534 avec Jacques Cartier, qui fait partie des premiers explorateurs français en Amérique du Nord. Donc, jusqu'en 1763, après la guerre de 7 ans. Et c'est un empire donc, qui s'étale donc, depuis l'Est canadien jusqu'au Golfe du Mexique. Donc une bonne partie de la Nouvelle-France aussi, c'est dans les États-Unis actuels, et l'autre partie, c'est dans l'actuel Canada. En Nouvelle-France, il y avait l'esclavage dans ce territoire. Il y avait aussi l'esclavage dans l'Est canadien, dans l'ancienne Acadie, hein, dans l'actuelle région de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick. Cette région-là, donc, il y avait aussi de l'esclavage, puisque c'était une région très proche des États-Unis, mais également qui était en connexion avec les Antilles. Donc, pendant une période de 205 années, l'esclavage a existé au Canada. Alors, les lieux de provenance, c'était l'Afrique d'abord, hein. Il y a eu quelques tentatives pour faire venir des esclaves africains originaires de la région du Golfe de Guinée, hein, c'est l'ouest, cette région qui s'étale de la Guinée ou du Sénégal jusqu'au Golfe, jusqu'au Cameroun, dans cette région-là qu'on appelle le Golfe de Guinée, très vaste. Ça n'a pas été des tentatives très, très réussies, mais d'autres esclaves vont être pris dans les Antilles. Il y avait une connexion entre les Antilles et le Canada. Ou des esclaves qui viennent des États-Unis, directement de la Louisiane ou des colonies anglaises, des 13 colonies. Donc, il y avait un ravitaillement. Mais il faut rappeler que l'esclavage au Canada n'a pas eu l'ampleur que ça a eu aux États-Unis. Hein. Il n'y a pas de plantation au Canada. Les esclaves travaillaient comme domestiques ou bien dans les vergers ou participaient à un certain nombre d'activités. Mais c'était quand même des esclaves. Ils font partie de l'histoire du Canada. Donc, c'est une page à revoir, c'est une histoire aussi à relire, à mieux comprendre. Alors, l'impact, oui, l'impact, c'est comme ailleurs. Hein. Vous savez très bien que ce que vivent les Noirs aujourd'hui dans le monde est en grande partie donc une conséquence de l'esclavage. Hein. Pendant l'esclavage, ces gens étaient considérés comme des marchandises, comme une possession, donc une propriété. Ils appartenaient à des gens. Donc, ce qui veut dire que leur vie ne comptait pas du tout et ils étaient vus comme des choses. Et à la fin de l'esclavage dans l'Empire colonial britannique en 1833, alors le problème c'est que l'esclave aussi est vu comme un fugitif, hein, entre guillemets, un fugitif, ça, c'est un terme à connotation criminelle. Et beaucoup d'esclaves quittaient les États-Unis pour se réfugier au Canada, et puis on les mettait dans les journaux, et puis il y avait une présentation assez négative, c'était des criminels caribes, des violents, traqués par des chiens, etc. Tout ça va rentrer dans la mentalité, dans la perception, et puis donc ils vont commencer à subir le racisme, les discriminations, les rejets. Donc ça ne s'est pas très bien passé au Canada, puisqu'il y a beaucoup qui vont même retourner aux États-Unis après la guerre de sécession américaine. Si je prends une province comme le Haut-Canada, l'actuel Ontario, pratiquement 50% ou voire plus de la population noire est retournée aux États-Unis. Si je prends l'exemple du Québec aussi, une bonne partie est retournée et une bonne partie des Maritimes également. Donc ça montre que ça ne s'était pas bien passé. Au Canada, il y a eu les écoles ségrégées. Hein. Les Noirs n'avaient pas le droit d'aller dans les mêmes écoles aussi. Il y a des problèmes dans les hôtels, dans les hôpitaux, dans les églises également ont été séparées. Mais cette histoire n'est pas bien connue parce que le Canada a été présenté comme un pays qui a accueilli les Noirs versus les États-Unis qui faisaient souffrir les Noirs. Donc c'est ça qu'on a officiellement vulgarisé. Mais cette histoire de violence subie, de discrimination, de racisme n'est pas très bien connue. Donc les conséquences, c'est ça aujourd'hui encore. Les chiffres sont là. La population noire du Canada qui s'élève à environ 1 200 000 sur une population de 35 millions, à peu près 3 à 4 %. Si on prend en termes de proportion, c'est la plus représentée dans les prisons, les échecs scolaires, la pauvreté, le manque d'emploi qui est très racisé, etc., etc. Tout cela, ce sont les conséquences de cette histoire d'esclavage, de l'histoire donc des Noirs dominés dans cette Amérique du Nord et notamment au Canada.
Au regard de ce que vous dépeignez dans votre livre, le Canada n'a manifestement pas un passé glorieux dans le traitement égalitaire des êtres humains. Même si le pays n'est pas souvent cité parmi les pays esclavagistes, on se rend compte qu'il a quand même pratiqué l'esclavage. Quoiqu'il ne l'a pas pratiqué au même degré que certains pays comme la France et les États-Unis. Cela aussi s'explique par la puissance de ces pays comparés au Canada. Mais pourquoi cette histoire n'est pas enseignée dans les écoles canadiennes?
Cette histoire de l'esclavage des Noirs au Canada n'est pas très connue. Les raisons sont nombreuses. Hein. La première, comme j'ai dit, c'est que le Canada n'est pas un pays où l'esclavage est véritablement très, très important au niveau comme si on compare comme les États-Unis, les Caraïbes, ou des pays comme le Brésil, etc. Donc, le fait que ce n'est pas un nombre très important, ça a été minimisé. L'autre raison, comme j'ai dit, l'esclavage est tellement important aux États-Unis avec les grandes plantations que ça a éclipsé l'esclavage canadien. Une autre raison qu'on peut mettre en avant, c'est qu'après la Confédération, le Canada devient progressivement contrôlé par donc, des Canadiens, alors que jusque-là, c'était la Grande-Bretagne. Et puis la France, qui était les principales puissances, mais la France quand même n'était pratiquement plus très importante depuis la guerre de 7 ans. Donc, c'est la Grande-Bretagne. Et jusque pratiquement dans les années 1931, le Canada était quand même en 2 millions. Après la Confédération, on a voulu créer un Canada différent, différent des autres pays. Donc, un Canada qui a une histoire, en tout cas, beaucoup plus propre que ce qu'on a vu ailleurs. Et cette question, donc, de l'esclavage a été véritablement mis de côté. Hein. Pas seulement cela, mais l'immigration même du Canada. Vous allez voir que dans la fin du 19e siècle, quand on va décider de peupler l'Ouest canadien, les prairies canadiennes, toute cette vague d'immigration, elle va venir de l'Europe, hein, de l'Europe de l'Est, de l'Europe centrale, de l'Europe de l'Ouest, et on va fermer la porte aux Noirs et aux autres, hein, aussi, hein, les Noirs des États-Unis. Vous avez toute une série de publicités d'affiches qui ne veulent pas que les Noirs arrivent au Canada. Donc, on a voulu construire ce qu'on appelle un white man country, hein, un pays de l'homme blanc, et ça, c'est un pays où ce seraient des immigrants européens chrétiens qui allaient peupler le Canada. Donc le Canada a voulu être différent des autres pays. Et ça aussi, ça contribue également à faire un pays différent, un pays entre guillemets blanc, où il n'y a pas eu l'esclavage, il n'y a pas eu une importance de population noire, etc., etc. C'est des éléments comme ça qui font que l'histoire des Noirs, des Afro-Canadiens n'est pas visible, n'est pas considérée. Et nous, les immigrants récents, quand on est arrivé aussi, on ne connaissait pas cette histoire. On a pensé que, comme tout le monde, que les Noirs qui étaient là, c'est des immigrants récents qui viennent soit des États-Unis, ou en tout cas de façon récente. On n'a jamais su et compris qu'il y avait une histoire de 400 ans des Noirs au Canada. Plusieurs raisons qui le font. Et puis, n'oublions pas aussi qu'il y a des minorités. Et puis, au Canada, hein, la communauté francophone également est devenue un peu une communauté assez minoritaire, notamment quand on est là au Québec. Et finalement, les gens s'intéressent beaucoup plus à leur propre histoire. Quand il s'agit d'injustice, on regarde plus ce qu'ont subi les Autochtones, les communautés francophones quand elles sont à l'extérieur du Québec, etc., etc. Donc, ça fait qu'il n'y a pas eu d'intellectuel, de personnalité dans ces communautés-là pour s'intéresser à l'histoire des Noirs, ou bien dans les communautés afro-descendantes même pour essayer d'écrire. Mais aujourd'hui, on a quand même de plus en plus de choses qui sont écrites sur cette histoire-là, notamment dans le Canada anglophone. Dans le Canada francophone, il y a eu un ou deux livres assez sérieux sur la question. Mais globalement, ça a été une histoire mise de côté qui n'intéressait pas personne et puis qui n'attirait pas non plus, alors que c'est une histoire quand même qui est vieille de 400 ans.
La discrimination systémique et le profilage raciste sont des sujets qui enflamment l'actualité canadienne. Quelles recommandations faites-vous pour diminuer le racisme anti-noir et la discrimination envers toutes les autres communautés?
Je rappelle que dans mon livre aussi, il y a une postface où j'essaie d'énumérer un certain nombre d'éléments qu'il faut mettre en place pour arriver justement à combattre cette histoire méconnue et puis à aider en fait à changer la perception des Afro-Canadiens, des Noirs dans la société canadienne. Parmi ces éléments, donc, je pense que l'éducation d'abord, hein, c'est très important de que cette histoire-là elle rentre dans les curriculums scolaires, dans les programmes scolaires, qu'elle soit apprise dès le jeune âge pour que les enfants aussi puissent comprendre que l'histoire du Canada, ce n'est pas simplement l'histoire des Canadiens d'ascendance européenne et un peu de l'histoire des Autochtones. C'est une histoire qui s'est construite par beaucoup de communautés, au rang desquelles il y a quatre communautés qui ont une histoire au moins de 400 ans. Les Autochtones sont là depuis des dizaines de milliers d'années, on le sait très bien. Les Européens, donc, il y a 400 ans, mais aussi les Noirs, leur histoire, il y a 400 ans. Ce sont les quatre communautés les plus anciennes de l'histoire du Canada. Puis il y a d'autres communautés, hein. Il y a les Sud-Est asiatiques, il y a donc les Chinois, il y a aussi les Latinos, il y a tout le monde. Aujourd'hui, le Canada est un melting pot. Hein. La Constitution canadienne, d'ailleurs, reconnaît le multiculturalisme donc intégral, donc ça c'est connu. C'est une histoire qui doit être dans les programmes scolaires, dans les manuels. Cela aiderait beaucoup à avoir une autre perception du noir, de l'afro-canadien, donc au Canada. Qu'est enseignée la présence des Noirs au Canada, c'est simplement que le Canada était un paradis pour les Noirs qui fuyaient les États-Unis, qui voulaient se réfugier au Canada. Et donc, ils n'ont rien à dire. Finalement, cette histoire-là empêche les gens de parler, d'ailleurs, de mettre le point sur les i. Donc, la première chose, c'est ça, l'éducation, et réécrire la vraie histoire des Noirs au Canada. La deuxième chose à faire, c'est aussi pour aider que la situation change. Aujourd'hui, on a la montée du racisme, de discrimination. C'est des décisions politiques. Hein. Avoir un discours politique correct, combattre toutes les idées racistes, xénophobes, discriminatoires, et puis une justice équitable pour tous, qu'on n'a pas simplement utiliser des arguments quand il s'agit des élections et puis qu'on ne les respecte pas véritablement. Donc, il faut une justice forte, il faut des décisions politiques très fortes. Il faut aussi que les leaders, les élites des provinces et puis de la fédération acceptent et puissent prononcer cette question en présentant des excuses, tout simplement, puisqu'on a nié une histoire de 400 ans, on a nié des souffrances, des vies ici, et présenter des excuses comme on l'a fait avec les Autochtones, comme on l'a fait aussi avec les Japonais. Je rappelle que les Canadiens d'ascendance japonaise ont subi beaucoup de souffrances pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont été internés dans les camps, mais sous le gouvernement de Stephen Harper, dans les années 2006, je crois, le Canada a présenté des excuses. Le Canada aussi a présenté des excuses aux Autochtones. Mais il n'a jamais présenté des excuses aux Noirs, parce que c'est une histoire qu'on pense que ça ne vaut pas la peine. En plus, c'est les Noirs. Les Noirs, depuis la fin de l'esclavage, avec tous les 500 ans d'esclavage, mais aussi l'esclavage transsaharien avec plus de 1300 ans d'esclavage arabo-musulman. Finalement, les Noirs, leur histoire, leur sort est tellement banalisé, les gens pensent que c'est normal, c'est les Noirs. Donc tout cela, c'est dû à une ignorance, à un manque de connaissance de l'histoire, qui fait qu'on ne prend pas au sérieux ce que les Noirs ont vécu dans ce monde. On doit changer un peu la perception, les mentalités, les visions, aider les gens à comprendre véritablement ce qui s'est passé. Il y a aussi un besoin de visibilité dans les médias, en politique, hein, voir des Noirs occuper un certain nombre de postes, à tous les niveaux. Tout cela aiderait véritablement à combattre les racismes, les discriminations, à créer une société beaucoup plus inclusive. Et puis les Noirs également se sentiront véritablement chez eux au Canada, puisque je vous rappelle qu'il y a des Noirs de 300 ans, 400 ans d'ascendance canadienne ici. Mais il me semble que l'éducation est l'arme la plus sérieuse pour véritablement aller de l'avant. Sinon, les adultes d'aujourd'hui n'ont pas eu la chance d'apprendre cette histoire. Les enfants d'aujourd'hui peuvent l'apprendre, ils ne sauront pas exactement comme les adultes d'aujourd'hui. Quand ils vont être des adultes responsables, ils prendront cette histoire beaucoup plus au sérieux. Et ça va baisser beaucoup donc le racisme, les discriminations. Cette approche à travers l'éducation, elle doit se faire non seulement pour l'histoire des Noirs, mais des Autochtones et toutes les minorités au Canada et ailleurs dans le monde.